Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Votre radiographie du coronavirus et aujourd'hui, vous abordez une nouvelle question assez sensible. La Covid-19 attaque-t-elle le cerveau?
Et oui, au rang des informations anxiogènes, Guillaume, celle-ci, il faut l'avouer, tient une belle place hein, et elle est portée par un grand nombre d'observations cliniques de patients qui arrivent à l'hôpital en état de grande confusion, certains étant incapables de lire, de dire où ils sont, ni quelle est l'année actuelle. Bref, les chiffres de ces constats varient énormément. Hein. À l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, le nombre de patients qui présentent des troubles neurologique est estimé à 10%, tandis qu'une étude du Journal of the American Medical Association évoque sur 214 cas confirmés, 68 qui présenteraient des troubles neurologiques, soit un taux de 36%. Bref, vous le voyez, hein, des chiffres très disparates sur des tableaux cliniques qui sont eux aussi très variables et qui vont de la simple disparition de l'odorat à des états de confusion plus sévères. Alors, de quelles informations dispose-t-on aujourd'hui pour établir un éventuel lien entre le SARS-CoV-2 et des atteintes neurologiques ? Eh bien, pour le moment, d'assez encore peu de choses, il faut bien l'avouer. Ce que l'on sait, c'est que d'autres coronavirus ont ce qu'on appelle des tropismes neurologiques. C'était le cas pour le SARS-CoV-1, responsable du SRAS, dont on a trouvé des traces virales dans le cerveau de quelques rares patients autopsiés. Ce serait également le cas pour le MERS-CoV, ainsi que pour d'autres bêta-coronavirus, la famille de coronavirus du CoV-2, comme le HCoV-229E ou le HCoV-043, qui sont deux autres coronavirus qui peuvent infecter l'être humain. Ce que l'on sait également, c'est que le récepteur du SARS-CoV-2, le fameux récepteur ACE2, ACE2 en anglais, qui est exprimé au niveau des voies respiratoires et qui sert de porte d'entrée au virus, eh bien ce récepteur est exprimé dans d'autres organes, comme le cœur, les reins, et également, même si en plus faible quantité, au niveau de l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la surface des cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux du cerveau. Néanmoins, on sait aussi que le cerveau, organe central et très fragile, est extrêmement bien protégé des pathogènes extérieurs grâce à la barrière hémato-encéphalique qui ne laisse passer quasiment rien jusqu'aux neurones du système nerveux central. Les pistes pour l'accès du SARS-CoV-2 pourraient être, du coup, ces portes d'entrée ACE2 via le réseau sanguin, ce qui conduirait à une forme d'encéphalite virale. Autre piste, celle des neurones du bulbe olfactif, ce qu'on sait, puisqu'on sait que ce bulbe peut être atteint et affecté par le virus, qui crée ces fameuses anosmies, ces pertes d'odorat que l'on constate chez de nombreuses personnes touchées.
Donc, pour le moment, Nicolas, la balance pencherait plutôt du côté de ce tropisme neuronal de la maladie.
Voilà, comme toujours, Guillaume, en virologie, les choses sont loin d'être aussi simples et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si on se penche sur les données épidémiologiques de ces symptômes de confusion diagnostiqués à l'entrée de l'hôpital, que constate-t-on ? Dans un premier temps, que les patients concernés sont pour une très large majorité des patients âgés ou présentant des comorbidités très importantes. Que ces symptômes sont constatés par ailleurs sur des patients en réanimation pour l'écrasante majorité avec des symptômes aigus de la maladie, donc fièvre et état inflammatoire prononcé, la fameuse tempête de cytokines qui déclenche une réaction immunitaire incontrôlée qui est à l'origine, du coup, comme vous le savez, des formes aiguës de la Covid-19. Or, on sait également, comme nous l'a rappelé le neurobiologiste et neurologue Hervé Schneves, que nous avons contacté, que cette tempête de cytokines augmente la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique de manière à permettre à certaines cellules inflammatoires de pouvoir passer dans le cerveau. Si l'on ajoute à cela les conséquences de l'hypoxie, c'est-à-dire d'une déficience en oxygène, qui a, on le sait, des répercussions importantes et immédiates sur le cerveau, et ce, même chez des patients en ventilation mécanique assistée qui ne supplient pas à 100% la respiration naturelle, il n'est pas étonnant que cela se répercute sur les fonctions cognitives. Alors comment discerner ce qui serait les conséquences de la réaction inflammatoire de celle de l'encéphalopathie virale sur ces troubles cognitifs ? Eh bien pour cela, il faut encore plus d'études et notamment des prélèvements post-mortem dans le cerveau des personnes qui ont succombé à la maladie pour voir si on y trouve ou non une charge virale significative. Selon Bruno Hohen, qui est directeur de recherche médicale à l'Institut Pasteur que nous avons joint, pour l'heure, plusieurs tentatives pour détecter le génome du virus par PCR dans le liquide céphalorachidien ont été faites sans succès. D'un autre côté, Stanley Perlman, qui est spécialiste des maladies infectieuses à l'université de l'Iowa, croit savoir, sans aucune preuve ni publication pour le moment, que des prélèvements chinois post-mortem montreraient la présence de coronavirus dans des tissus cérébraux. Vous le voyez, il faut attendre, une fois de plus, d'avoir de plus amples informations pour pouvoir trancher de façon définitive. Mais pour l'heure, le consensus scientifique va plutôt dans le sens d'une conséquence à la surchauffe de la réponse immunitaire, plutôt que d'une encéphalopathie virale. Ce qui est sûr néanmoins, c'est que ce que l'on a observé, ces troubles cognitifs ne sont pas irréversibles chez les patients qu'ils ont manifestés et qui ont guéri, et qu'ils restent minoritaires à tel point qu'ils ne font pour le moment pas encore partie du tableau clinique européen de diagnostic de la Covid-19.
Merci beaucoup, Nicolas.